RCF. L'échappée belle en musique, présentée par Philippe Solaire.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a 30 ans, disparaissaient quasiment jour pour jour à quelques semaines d'intervalle les pianistes Rudolf Serkin, Wilhelm Kempf, Claudio Arrau. Impossible pour moi de passer sous silence ces anniversaires tant ces trois immenses pianistes ont été importants, capitaux. Alors après Rudolf Serkin et avant Claudio Arrau, feuilletons ensemble l'album Wilhelm Kempf de la même manière que l'on feuillette un album d'images, en nous arrêtant un peu plus sur certaines, en nous arrêtant, pour ne rien vous cacher, sur les enregistrements qui m'ont profondément marqué et qui encore aujourd'hui m'accompagnent. Wilhelm Kempf, un récital idéal, acte 1. C'est Wilhelm Kempf qui nous interprétait sa transcription du menuet en sol mineur de Handel. Mais quel piano magnifique! Vous savez, j'ai un rapport très particulier à Kempf, un rapport très particulier à sa sonorité. Je l'écoute quand j'entrerai en religion. Kempf est ancré dans ma mémoire, j'irais presque jusqu'à dire dans mes gènes, depuis ma plus tendre enfance. Mon tout premier professeur de piano, un Espagnol du nom de Gonzalo Tintorer, disciple de Granados, de Ricardo Vignès, était un ami intime de José Turbi, Yves Nat, Wilhelm Kempf. Kempf venait de temps en temps à Pau donner des récitals. C'était l'époque où les musiciens ne faisaient pas que les grandes salles de concert, mais se déplaçaient également dans les petites villes. Pendant mes cours, enfant, j'avais quoi, à peine 10 ans, Tintorer me parlait souvent de Kempf, me parlait de son jeu pianistique, de sa sonorité si particulière, si lumineuse. Il me disait de bien écouter comment Kempf utilisait la pédale. Ah, les pédales de Kempf, on y reviendra. Il me disait de faire attention à la manière dont celui-ci pouvait placer certains accents avec sa griffe si particulière, et puis la manière avec laquelle il arrachait les accords et les quelques décalages qu'il pouvait y avoir entre les deux mains. Tout cela avec la photo de Kempf qui prônait sur la cheminée du salon, à côté de celle d'Yves Nat, toutes deux dédicacées bien évidemment. Imaginez l'effet que cela pouvait avoir sur un gamin de 10 ans, marqué au fer rouge et à vie. De plus, Wilhelm Kempf était très célèbre en France, reconnu, adulé par le grand public. Et puis, comment ne pas oublier l'année 1970, année du bicentenaire de la naissance de Beethoven, où l'ORTF, l'ancienne télévision française, rendra hommage tout au long de l'année à Beethoven en nous offrant, tous les mercredis soirs, des prestations données par des artistes tels que Robert Casadesus, Francescati, Ferraz, Barbizet, Claudio Arrao, Eric Heitzig, le Quatuor Amadeus, entre autres, et bien évidemment, Wilhelm Kempf. Je me souviens très bien de l'impatience avec laquelle j'ai attendu le soir où Kempf devait jouer la sonate Claire de Lune. Et puis, mon tout premier disque Beethoven, et je ne serai pas le seul de ma génération, sera celui des trois sonates Claire de Lune, Pathétique, Appassionata, couplage standard à l'époque du disque vinyle. Au piano, Wilhelm Kempf, un Deutsch gramophone sur fond jaune, avec un portrait du maître assis devant son clavier, magnifique, majestueux, noble. Thank you. Nous écoutions le premier mouvement de la sonate pathétique de Beethoven, sonate opus 13, dans l'interprétation de Wilhelm Kempff, extrait de sa deuxième intégrale des sonates pour piano de Beethoven, intégrale enregistrée en 1964-1965. À la réécoute de cet enregistrement, je me suis fait la réflexion suivante. Kempff possède une parfaite justesse au niveau de ses tempi, un parfait dosage. Si Rudolf Serkin était dans l'urgence, avec une tendance à presser les choses, due en grande partie à son trac, si Claudio Arrau avec l'âge ralentira pour devenir de plus en plus pesant avec un poids émotionnel, Kempff, tout au long de sa carrière, tout au long de son évolution musicale, gardera un équilibre parfait entre les extrêmes. Jamais trop vite, jamais trop lent. C'est une des caractéristiques du jeu de Kempff que je ne pouvais passer sous silence.
L'échappée belle en musique sur RCF, Philippe Soler.
Après Beethoven, mon second disque de Wilhelm Kempff sera Mozartien. Ce seront les 8e et 27e concertos, avec la Philharmonique de Berlin sous la direction de Ferdinand Leitner. Nous sommes en 1962, et les quelques concertos pour piano de Mozart disponibles en disque à cette époque seront signés Klaraski, Lazin Fischer, Lili Cross, Gesekin, Casatzus. Arriveront très rapidement les Gesanda et Daniel Barenboim, qui changeront notre écoute au mozartienne, dirigeant du clavier, avec des formations orchestrales beaucoup plus réduites. Mais Wilhelm Kempff va encore faire partie de ceux qui devront composer avec un chef d'orchestre afin de trouver une unité à ses concertos. À regarder de plus près la discographie de Kempff, on se rend compte que ses disques mozartiens ne seront pas légion. En studio, de manière officielle, même pas une dizaine de concertos et juste deux sonates pour piano entourées des fantaisies. Dommage, car le Mozart de Kempff aurait mérité plus d'attention sur le plan discographique. Et c'est une fois de plus la couleur, la lumière qui va se dégager du jeu de Kempff. C'est un Mozart aux allures d'ange qu'il nous dessine. Car Wilhelm Kempff nous dessine les phrases, les traits pianistiques, les ciselles. Il ne pousse rien. Il laisse avancer les choses de la manière la plus naturelle qui soit, prenant le temps de nous faire goûter une couleur, une harmonie, comme on regarderait un paysage, comme on regarderait une fleur. En 1962, le Mozart de Kempff sera tout simplement miraculeux. Il va planer dans son interprétation du 27e concerto en si bémol, le dernier, l'ultime de Mozart, une incroyable sérénité, une étrange mélancolie. Et si, quelque part, le paradis ressemblait à cela?
Thank you. Thank you.
Mozart et son ultime concerto pour piano, le Köchel 595, sous les doigts ô combien inspirés de Wilhelm Kempff.
L'échappée belle en musique, présentée par Philippe Solaire.
Adolescent, je passe mon temps chez les disquaires, je cherche, je fouille. Il faut rappeler qu'à cette époque, nous n'avions pas Internet, nous n'avions pas les plateformes. Un jour, je découvre que Wilhelm Kempff avait enregistré quelques œuvres de Chopin, non pas chez Deutsche Grammophon, mais chez Decca. Cela pique ma curiosité et je pressens que ce Chopin ne ressemblera pas tout à fait au Chopin que je côtoie, le Chopin de Sanson-François, le Chopin de Rubinstein, celui de Lipatie. Kempff dans Chopin sera d'une simplicité désarmante. On va s'écarter du Chopin mélancolique slave. Avec Kempff, on va se souvenir que notre compositeur polonais sera passé par Vienne, qu'il aura grandi dans l'ombre de Beethoven et qu'historiquement parlant, il appartiendra à la génération du premier romantisme. Chopin, la valse en U dièse mineur, Wilhelm Kempff, enregistré pour la radio de Cologne en mars 1960. Je vous avoue être sensible aux éclairages que peuvent nous donner certains artistes là où on ne les attend pas. Kempff, c'est avant tout Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms et bien évidemment Bach. Étiqueter, cataloguer, mettre dans des cases, quelque part nous rassure et il est possible que le Chopin de Kempff déstabilise nos certitudes. Mais pour ma part, j'adore ces différences. En musique, en art, rien n'est figé. Et en matière d'interprétation, il serait présomptueux de penser que l'on détient la vérité. Il est important de rappeler que Chopin n'est pas un compositeur romantique au sens littéraire du terme. Chopin est un classique. Il vient directement de Bach et de Mozart, et c'est ce que quelque part j'entrevois à l'écoute du Chopin de Kempf. Et puis la clarté tout aérienne du jeu de notre pianiste allemand dans les traits rapides dans son cantabile n'est pas du tout en contradiction avec la couleur chopinienne. Alors laissons-nous porter et rendons les armes, Wilhelm Kempf, Chopin, fantaisie impromptue.
Thank you.
Chopin, Fantaisie impromptue, Wilhelm Kempf, enregistré à Cologne en 1960.
L'échappée belle en musique sur RCF, Philippe Soler.
Wilhelm Kempf, une harpe éolienne. L'expression est de Brendel, Brendel, fervent admirateur de Kempf, qui disait de lui, je le cite, « Quand il est au mieux de sa forme, il nous bat tous par la beauté de son jeu. » Continuons à citer Brendel. Kempf fait partie de ces rares interprètes qui ne se contentent pas de mettre en œuvre un concept musical, mais d'aller au-delà de celui-ci, en créant une atmosphère, en illuminant un paysage, une architecture, en jouant sur les changements d'éclairage. Kempf est également un interprète polyphonique, capable de saisir avec une grande légèreté plusieurs niveaux de son. Fin de citation. Magnifique compliment d'un Brendel à l'égard de son aîné. Magnifique compliment d'un futur immense schubertien à l'égard d'un Wilhelm Kempf qui le devancera quelque peu sur le plan discographique dans la réalisation des enregistrements des sonates pour piano de Schubert. Pour mieux comprendre les choses, replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Après avoir enregistré en 1964-1965 sa deuxième intégrale des sonates pour piano de Beethoven, Wilhelm Kempf se lancera dans des enregistrements schubertiens et cela de 1965 à 1969. Les impromptus, clavierstugues, moments musicaux et la quasi-totalité des sonates en incluant les inachevés. Dans le même temps, Ingrid Aebler gravera pour Philips son intégrale des sonates pour piano de Schubert en omettant les sonates inachevées. Quant à Brendel, il sera toujours plus ou moins relégué dans l'ombre chez une petite firme de disques, n'ayant pas encore signé avec Philips. Mais lorsqu'il le fera en 1971 et qu'il nous donnera sur 4 années son cycle Schubert, ce sera une véritable explosion et beaucoup de ma génération apprendront leur Schubert avec Brendel, reléguant quelque peu dans l'ombre le Schubert de Kempf. Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre et les deux versions cohabitent, se complètent de manière harmonieuse. Le Schubert de Kempf, encore et toujours cette lumière, cet éclairage, douceur, tendresse, calme, apaisement, le toucher de Kempf est inouï, insensé, on touche quasiment au divin. Chez lui, aucune lutte intérieure, il n'est pas l'homme des combats. Les choses, il va nous les dire à mi-voix, il va nous persuader sans violence. Le piano de Kempf est le piano de notre monde, le piano de notre ailleurs. Wilhelm Kempf, un être humain avec une foi créatrice, un apôtre de la musique. Seul Edwin Fischer, sur ce plan, pourra lui être comparé. On écoute Wilhelm Kempf, Schubert, sonate en la majeure. Thank you. Schubert, sonate en la majeure, Deutsch 664, au piano Wilhelm Kempff. Saviez-vous que Wilhelm Kempff était également organiste? Il va naître en 1895 à Jüterbog, une ville allemande située à quelques kilomètres au sud de Berlin. Il va grandir dans la plus pure tradition musicale de l'église luthérienne. Son père et son grand-père étaient organistes des cantors. Kempff suivra leurs traces. Il sera doué à un point tel pour le clavier qu'il alternera durant la première moitié de sa carrière les récitals de piano avec les récitals d'orgue. Et son jeu pianistique se ressentira bien évidemment de cette double pratique. Les couleurs, les plans sonores, son utilisation de la pédale si particulière, faisant vibrer les cordes de manière à créer des effets de jeu d'orgue, tout cela prendra sa source dans son expérience d'organiste. D'ailleurs, j'en veux pour preuve les préludes de chorale BWV 307 et 734 de Bach, transcrits ici pour le piano par Wilhelm Kempff et qu'il enregistrera en avril 1975, un des sommets de la discographie de Kempff, un disque à marquer d'une pierre blanche. Magnifique chorale de Bach interprétée ici au piano par Wilhelm Kempff. J'ai eu la chance d'entendre Kempff à Paris, salle Pleyel, à l'époque où j'étais jeune étudiant. C'était en 1977. Kempff était alors âgé de 82 ans. Deux récitals dans la même semaine, le premier consacré à quatre sonates de Beethoven, le second à Bach, Schubert, Brahms et puis Kempff, car ne l'oublions pas, Wilhelm Kempff était également compositeur. L'entendre, le voir était une expérience hors du commun. Il était beau, noble. La tête relevée, il regardait les étoiles ou alors il regardait légèrement à gauche. Ses doigts pouvaient quelquefois le trahir, mais peu importe. Il n'avait pas beaucoup de puissance et pourtant de quelle manière il projetait. Nous étions tous accrochés à lui, pendus à sa sonorité, pendus aux résonances du piano, au silence. Aujourd'hui nous reste sa discographie conséquente, plutôt fiable, même si rien ne peut, avec des artistes de cette trempe, remplacer le concert, la présence sur scène. Nous avons feuilleté quelque peu l'album d'images, images sonores de cet immense artiste qu'était Wilhelm Kempff. D'autres trésors nous attendent dans l'acte 2 de ce récital idéal. Pour l'instant, quittons-nous avec Schumann et la dernière pièce des Kreisleriana. Chez Kempff, pas de folie schumannienne, pas de débordement, mais plutôt le caprice, un caprice intérieur, parfaitement équilibré, parfaitement contrôlé, d'une intériorité saisissante. Wilhelm Kempff, Schumann, 1956, je vous dis à très bientôt.